La revue de presse internationale, Camille Magnard, bonjour.
Bonjour.
Et ce matin, nous explorons une brèche dans l'appareil de propagande officielle chinois.
Oui, c'est quelque chose d'extrêmement rare et précieux que publiait samedi le New York Times. 400 pages de documents officiels chinois, dont certains impliquant directement le président Xi Jinping, qui ont fuité ces documents et qui nous montrent à quel point, quoi qu'en dise Pékin, c'est bien un projet totalitaire et concentrationnaire qui se déroule depuis des mois dans l'extrême occident chinois. Cette région du Xinjiang, qui donne son nom aux Xinjiang Papers du New York Times, c'est celle des Ouïghours et d'autres minorités musulmanes qui semblent donc condamnées en haut lieu à disparaître ou à renier leur religion et leur culture. Les documents révélés ce week-end nous donnent à voir de l'intérieur, donc l'organisation consciente d'un génocide culturel et la manière surtout dont on tente de le dissimuler. Particulièrement éloquent en la matière, le Times met en exergue une note adressée par Pékin à ses fonctionnaires locaux pour répondre aux questions des étudiants ouïghours qui rentrent chez eux pendant les fêtes et qui découvrent que leurs parents ont disparu comme environ 1 million de membres de leur ethnie. On leur répondra donc que ses proches ont été envoyés en formation dans des centres d'entraînement et d'éducation concentrés. L'euphémisme bureaucratique résume presque à lui seul l'horreur froide du projet chinois quand on sait qu'en fait les Ouïghours en question sont enfermés et forcés de renier leur identité quand ils ne sont pas, les documents du New York Times le montrent également, enrôlés de force dans des réseaux de travail qui les déportent à travers tout le pays.
Et ces Xinjiang Papers confirment aussi que l'entreprise menée par la Chine contre les Ouïghours est bien concentrationnaire.
Oui, de cela il y avait assez peu de doutes, hein, vu le nombre d'informations qui ont circulé ces derniers mois dans la presse internationale et dont nous nous sommes fait l'écho ici. Mais ce qui est nouveau avec ces fuites de documents officiels, c'est que le régime chinois, même s'il réfute publiquement cette appellation de camp de concentration, eh bien ce régime n'hésite pas à l'utiliser, lui, en interne, sans y voir aucun mal. Car selon les termes qu'ils emploient eux-mêmes pour se justifier, les plus hauts dirigeants chinois, à commencer donc par le président Xi Jinping, se sont convaincus après 2014 que la fin justifiait les moyens, car dans leur discours, il s'agit de mater le terrorisme ouïghour, des attaques remontant à 2014 présentées dans les Xinjiang Papers comme relevant du séparatisme et de l'extrémisme islamique, mais dont on sait, c'est établi en réalité, qu'il s'agissait plutôt de passages à l'acte sporadiques et spontanés. À ce propos, l'un des enseignements des Xinjiang Papers, c'est bien le fait que l'enfermement des Ouïghours à une échelle industrielle n'est pas un projet sorti de l'esprit de quelques fonctionnaires locaux, zélés. Les ordres sont venus du sommet. On en a désormais la preuve noir sur blanc. Le simple fait que les documents soient parvenus au New York Times montre tout de même qu'il y a des brèches, que des fonctionnaires prennent des risques pour faire dérailler cet effrayant projet concentrationnaire, ou en tout cas que pour que Xi Jinping et ses plus proches conseillers ne puissent pas nier leurs responsabilités comme ils le font face au reste du monde. L'administration chinoise n'obéit donc pas comme un seul homme. D'ailleurs, les fuites nous apprennent aussi que plusieurs bureaucrates locaux ont été purgés pour avoir osé émettre des critiques ou contester les ordres. On lira par exemple la confession longue de 15 pages et rédigée sans doute sous la contrainte par Wang Yongji, ce responsable d'un comté du Xinjiang, a osé dire que la concentration de masse des Ouïghours était selon lui contre-productive, qu'elle allait créer encore plus de tensions interethniques et retarder le développement économique de la région. Wang Yongji a aussi joint les actes à la parole. Il a fait libérer discrètement 70 000 détenus ouïghours. Pour tout cela, le fonctionnaire a été arrêté, déchu de toutes ses fonctions, puis jugé et condamné.
Et dans la presse pakistanaise, Camille, le combat des policiers contre un fléau absolument insolite.
Et gare aux agents qui traîneront les pieds, nous dit le quotidien anglophone The Nation. Ils seront jugés personnellement responsables. La lutte contre ce crime que constitue le fait de vendre ou d'utiliser un cerf-volant dans la région pakistanaise du Punjab ne souffrira, lit-on, aucune mollesse. Le cerf-volant est un danger public. Il ne doit pas être toléré dans l'espace public. C'est en ce sens, rappelle The Express Tribune, qu'un très sérieux et contraignant Kite Flying Act a été pris il y a maintenant 2 ans au Punjab. Et hier, une réunion des principaux responsables de la police locale a redit qu'il faut donc sévir contre toute personne prise en train de vendre ou de faire voler un de ces objets, je n'ose même pas dire un de ces jouets. D'ailleurs, que la population se rassure, les forces de sécurité veillent. On apprend sur le site Breaking News Pakistan qu'hier dimanche, une descente de police a permis de démanteler un réseau. 3 vendeurs de cerfs-volants arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à écouler leurs marchandises criminelles, pas moins de 300 pièces saisies. Mais attention, il ne faudrait tout de même pas trop minimiser l'importance de ce combat. The Daily Time nous en livre l'explication. Pas plus tard qu'hier, un homme de 40 ans a trouvé la mort dans des circonstances, il faut le dire, particulièrement cruelles. Il circulait sur sa moto, il allait au marché près de chez lui et le fil d'un cerf-volant s'est accroché à son cou par accident. De tels drames se déroulent assez régulièrement au Pakistan et comme les cerfs-volants là-bas utilisent, nous dit-on, des fils d'acier très solides mais aussi fins et tranchants, eh bien les blessures sont souvent très graves. Depuis le début de l'année, selon l'Express Tribune, il y a eu 5 blessés et 2 morts dans des circonstances similaires pour 1700 enfants arrêtés en possession du jouet criminel. C'est déjà trop pour le gouvernement du Pendjab qui a juré hier de renforcer encore sa politique de tolérance zéro contre ce fléau volant.
Merci Camille Magnard.